frères, c'est la fête de Corpus Christi, la fête du corps et du sang du Seigneur. Et pour nous, c'est une fête importante, c'est celle dont nous vivons intimement. C'est comme ça qu'est présent le Seigneur, c'est comme ça que nous sommes présents à lui, c'est comme ça que nous vivrons éternellement. Alors il est important de s'arrêter un instant. Je vous propose de voir d'abord l'Eucharistie, qui est la réelle présence du Christ, puis dans un deuxième temps, l'union au Christ réellement présent. Tout d'abord, l'Eucharistie, réelle présence du Christ. Au Jeudi Saint, le Seigneur va établir un signe au cours d'un repas qui n'est pas un repas commun, mais un repas liturgique de l'Ancienne Alliance. Les Juifs font mémoire du passage de la Mer Rouge, du passage de l'esclavage à la liberté. Ils se souviennent d'avoir tué un agneau par famille, d'en avoir mis le sang sur le linteau des portes, et c'est ce qui les a sauvés. La mort ne les a pas frappés, et ils ont pu vivre et sortir de l'esclavage. C'est à travers ce repas, dans lequel il y a également du vin et du pain, le pain qu'ils ont mangé pour arriver jusqu'en terre promise, la subsistance qui leur a été donnée, et le vin qui est le signe d'Israël lui-même, puisque la vigne du Seigneur, Sabaoth, c'est le peuple d'Israël. C'est au cours donc de ce repas que le Seigneur va établir un signe. Mais attention, il l'établit sur l'ancien signe qui est en train de passer et il va en établir un nouveau. Effectivement, si vous avez bien écouté le récit qui nous en est fait par saint Paul, après le repas, petit détail, pour nous dire que maintenant, c'est un nouveau signe qui s'établit. Un nouveau signe aussi puisque le personnage central n'est plus l'agneau et nous n'avons pas d'agneau sur nos autels, sinon mystiquement parlant, car nous le savons, l'agneau, nous avons bien écouté Jean le Baptiste, c'est le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous n'avons plus besoin de cette figure du salut, nous avons le salut en lui-même, l'agneau de Dieu, le Christ. Voilà, bref, il prend du pain et du vin et il dira à ses apôtres, voici mon corps, voici mon sang, livré pour vous, versé, répandu pour vous. Mais voilà, ce n'est qu'un signe. Et si vous vous arrêtez là, eh bien, vous faites de la célébration de la messe ce signe. C'est exactement ce que vous faites si vous ne pensez pas que le Seigneur soit substantiellement et réellement présent. Mais voilà, en établissant un signe, il a renvoyé à une réalité. Le signe était le support de la réalité, tout comme tout signe d'ailleurs. Quand vous avez un feu rouge qui est le signe d'un danger, eh bien, il renvoie à un danger qui est une réalité, qui est que si vous passez au feu rouge, vous allez renverser quelqu'un ou vous prendre la voiture qui vient de l'autre côté. Or, quelle est la réalité auquel renvoie ce signe? C'est sa mort sur la croix. Mon sang répandu pour vous, mon corps livré pour vous. Ce qu'il dit le jeudi, ce qu'il établit en signe le jeudi, il le réalise le vendredi. Alors, cette présence du Christ se fait réelle et non plus seulement par signe, non plus seulement symbolique, mais réelle, symbole au sens premier du terme, c'est ce qui signifie la chose même. Et ce qui signifie la chose même nous donne la chose, c'est un sacrement. On disait, et on dit toujours d'ailleurs, signum tantum, seulement le signe, res tantum, seulement la chose, et le sacrement, c'est res et sacramentum, c'est le signe donnant la chose. C'est ça un sacrement, c'est une action sacrée qui produit ce qu'elle dit. C'est pourquoi le Seigneur est réellement, substantiellement présent dans l'Eucharistie. Et il est présent, dit-on par antonomase, mais ça c'est pour le plaisir d'un mot savant, c'est-à-dire il est présent d'une manière qui n'est présent nulle part ailleurs. Car vous allez entendre, mes bien chers frères, de bons catholiques qui vont essayer de diminuer un peu la présence du Seigneur en utilisant, comme toujours quand on dit un mensonge, une vérité, c'est-à-dire en vous disant « mais le Seigneur est présent de multiples manières ». Et c'est vrai. Et le Seigneur est présent dans l'Eucharistie, il est présent au milieu de nous quand nous prions, il est présent dans votre cœur, il est présent partout où vous allez réaliser le bien, et tout ça est vrai. Mais il n'est pas présent de la même manière. Ça, ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui la fête des pères. Malheureusement, mon père est en Lorraine. Et je vais donc l'appeler à la sortie de cette messe. Et mon appel sera comme une présence pour lui de mon amitié et de mon respect filial. Ben, ça n'a rien à voir au fait que j'aurais pu aller, malheureusement je ne peux, me rendre en Lorraine, faire les 400 kilomètres et déjeuner avec lui et l'embrasser. La présence, elle est de bien des manières. Je peux vous envoyer ma photo. Si je viens moi-même, c'est pas la même présence. Ce sont certes deux présences, mais c'est pas la même. Or, la présence qui est ici dans l'Eucharistie, elle est inadmissible, elle est incomparable, elle est réelle, substantielle dans ce pain et ce vin. C'est la transsubstantiation. On m'a dit récemment, il faut plus employer ce mot-là parce que les enfants ne peuvent plus comprendre. Alors, c'est toujours des anciens qui disent ça. Alors, j'ai dit, mais peut-être vos neurones sont-ils pourris, mais ceux des enfants sont encore prêts à fonctionner et ils peuvent comprendre que il y a une transsubstantiation, c'est-à-dire que la substance du pain est transformée dans la substance du corps du Christ. Oui, c'est une présence substantielle de son corps, de son âme, de sa divinité, de son humanité. Tout est présent. Relisez la magnifique séquence que nous avons chantée. Tout y est. Bref, dans ce sacrement, nous refaisons, nous pauvres hommes, et nous faisons mémoire, c'est vrai, du geste du Christ, et par sa volonté, il se rend présent. Comment est-ce possible? C'est la dernière question de ma première partie. Comment c'est possible que le Seigneur qui a établi un signe le jeudi saint il y a 2000 ans, qui a réalisé ce geste, donné sa vie le vendredi saint il y a 2000 ans, comment est-il possible que la messe que nous allons célébrer dans un instant rende réellement présent le corps du Christ? Eh bien, c'est tout simple, c'est marqué dans la séquence aussi. C'est parce qu'il est vivant, c'est surtout Saint Paul qui nous le dit, Saint Jean qui nous le dit. C'est parce que lui-même est vivant, qu'il est éternellement vivant en dehors de ce monde, dont il n'est plus dans l'incarnation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'est plus soumis à l'espace et au temps. Il est libre de tout, il n'est plus soumis, il vient quand il le désire, comme nous l'ont montré ses apparitions après Pâques. À chaque Eucharistie, alors que nous reposons le signe du pain et du vin, que nous redisons les paroles du Seigneur, le Seigneur, éternellement présent, se rend présent dans le monde à un moment déterminé. Réellement, il vient nous visiter et il est là. Voilà le grand mystère du corps et du sang du Seigneur qui se donne à nous à chaque messe. À chaque messe, ce n'est pas un repas que nous faisons. Le repas est un signe qui réalise ce qui me sauve, car ce n'est pas un repas qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est la croix du Christ, c'est sa mort sur la croix donnée pour que j'aie la vie, pour qu'il me transmette jusque dans ma mort la vie. Voilà ce qui se passe à l'Eucharistie. Voilà ce qui se passe ici. Le Seigneur réellement présent me fait vivre. Alors il me reste, et c'est ma deuxième partie, à savoir comment jouir, profiter de cette extraordinaire bonne nouvelle que le Seigneur vienne à nous. Eh bien, trois possibilités. L'adoration, la procession, la communion. Tout d'abord, l'adoration. Dès le début de l'Église, nous avons conservé ces hosties. Nous avons conservé de sorte de pouvoir porter aux malades, de sorte de pouvoir porter à ceux qui étaient en prison, le corps vivifiant du Christ. Et très vite, nous nous sommes dit, comment faire pour le garder au milieu de nous sans se rendre compte que il faut l'adorer? Et oui, à Dieu seul est due l'adoration, vous le savez. Un homme, une femme libre ne se met à genoux devant personne. Et lorsque nous nous agenouillons, lorsque le prêtre s'agenouille à l'autel, lorsque tout à l'heure, autant que votre santé vous le permettra, vous vous agenouillerez pour recevoir le Saint-Sacrement, vous signifierez, non pas que vous êtes de bons catholiques, mais vous signifierez que le Seigneur est là en personne. Sinon, rien ne justifierait qu'on s'agenouille, car nous sommes des hommes libres, on ne s'agenouille pas. On disait du curé d'Ars que on comprenait sa théologie et on comprenait sa foi dans la présence réelle du Christ à la simple manière qu'il avait de faire sa génuflexion. Combien de fois j'ai été navré combien je le suis encore parfois de voir des gens se balader dans l'église et puis passer devant le Saint-Sacrement, ne sachant ou ne voulant savoir peut-être qu'il est là ou ce qu'il faut faire. Comment pouvons-nous être égarés à ce point de ne pas savoir que le Seigneur nous attend de toute éternité? Comment passer devant une église sans s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, le saluer par une génuflexion, lui dire que nous l'aimons et que nous l'adorons? Bien sûr, cette adoration peut se poursuivre et aujourd'hui elle s'est répandue. Adorer le Seigneur une heure, deux heures, une nuit entière, c'est là une source vivifiante pour l'Église, car c'est la source dont nous vivons. L'Église est faite de l'Eucharistie. On disait au Moyen-Âge, et le pape Jean-Paul II l'a redit dans son encyclique sur l'Eucharistie, l'Église vit de l'Eucharistie et l'Eucharistie fait vivre l'Église. C'est l'Église qui fait l'Eucharistie, mais c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Alors livrez-vous avec joie à cette adoration. Ne manquez pas l'occasion de manifester au Seigneur qu'il est réellement présent. Le deuxième moyen, c'est le jour ou jamais d'en parler, les processions. Processionner avec le Seigneur dans l'Église, puis hors dehors de l'Église, comme nous l'avons fait tout à l'heure, c'est manifester que le Seigneur n'est pas enfermé ici, qu'il est venu pour se répandre parmi nous. C'est une vieille pratique qui est née au Moyen-Âge. Peut-être, en tout cas je l'ai trouvé là, mais il n'est peut-être pas le seul, par le prince-évêque de Liège, à qui on a proposé, comme toujours, à quelqu'un qui prend un fief, c'était alors mêlé que ce pouvoir temporel et spirituel dans sa personne, et on lui a proposé, pour qu'il se rende compte de quelle était sa juridiction, de faire le tour à cheval de son diocèse. Et il s'est dit, mais le vrai roi de ce diocèse, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Alors, je ne vais pas faire un tour à cheval tout seul, je vais emmener le Seigneur. Et voilà comment sont nées des processions. Géniale idée de laisser le Seigneur prendre possession de ce monde, de devenir le roi de gloire, prendre enfin, se réapproprier ce monde qui est sien. Voilà notre rôle, processionner partout, montrer le Seigneur, ne pas le cacher aux yeux du monde, car nous devons l'annoncer. Enfin, troisième moyen, évidemment, de s'unir profondément au Christ qui vient, c'est de communier. Communier, c'est commettre un acte spirituel, bien sûr que c'est dans la foi que nous communions, sinon, comme le dit saint Paul, nous allons chercher notre propre condamnation. C'est dans la foi, dans le désir de se livrer entièrement, de savoir que le Christ vit dans le Père et que c'est pour ça qu'il se rend présent, si nous communions, nous aussi, nous allons vivre de cette vie éternelle. Pour vous qui communiez, la vie éternelle est déjà commencée, si bien sûr vous communiez spirituellement pour pouvoir venir jusqu'au pied de l'autel, alors Dieu va demeurer en vous, faire de vous sa demeure, le temple de l'Esprit-Saint, c'est votre âme. Présent en état de grâce, il vous donnera de vivre de lui éternellement. Adorez éternellement le Très-Saint Sacrement, lui qui est réellement présent et qui vient nous vivifier. Ainsi soit-il.